الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، قد تحدثنا عن الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمسلم يكررها كثيرا في أيامه وفي مناسبات متعددة. ومن الكلمات الكثيرة التي تجري على لسان المسلم وينبغي أن تكون كذلك الحوقلة. الحوقلة هي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنقف على هذه الكلمة ونتدارسها بما تيسر وبالله التوفيق. Après avoir étudié, je dirais après avoir écouté les paroles Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar, qui sont les paroles les plus aimées d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, et qui sont essentielles dans la vie du croyant, qui se doit de les prononcer régulièrement au quotidien. Après avoir vu leur grandeur, leur splendeur et leur signification, nous voici en cette soirée, Inch'Allah Ta'ala, à nous arrêter un instant pour étudier ou tenter d'étudier la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». On l'appelle « Al-Hawqala ». Cette parole fait partie des meilleures paroles également, en raison du sens qui en découle. « Hadhihi al-kalimat » لا حول ولا قوة إلا بالله سهلة النطق ثقيلة في معانيها وفي شأنها عند الله تبارك وتعالى. Elles sont simples à prononcer et pourtant très lourdes dans la balance et de très grande valeur chez Allah عز وجل. كثرة الأحاديث الدالة على ذلك. Très nombreux sont les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant la valeur de cette parole. Nous allons donc en lire quelques-uns seulement. Sa naqifu ala ba'dihha, naqra'u ba'dan min hadhihi al-ahadith, insha'allahu ta'ala. Wal-maqsoud an nastash'ira qimata hadha al-kalam al-azim. Et notre objectif, lorsque l'on va lire ces hadiths, c'est de comprendre la valeur de ces paroles. Premièrement, je vais choisir quelques hadiths. Un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi et autres. An Abdillah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma ala al-ardi rajulun, yaqul, لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: il n'est pas un homme sur terre qui prononce la ilaha illallah, Wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sans que ses péchés ne lui soient pardonnés, quand bien même serait-il plus grand en nombre que l'écume de la mer. Huna nuqta muhimma. وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا ولو كانت أكثر من زبد البحر. زبد البحر ما يكون يظهر على الماء من خشب وأمور يعني كبيرة في بالنظر كثيرة، لكن ليس فيها شيء في الحقيقة. Ce que l'on appelle l'écume de la mer, c'est ce qui flotte dans l'eau. Et vous, vous avez la mer ici. Vous le voyez. Les morceaux de bois, les feuilles d'arbres, etc. Les choses qui flottent. Quand vous regardez au loin l'écume de la mer, vous voyez énormément de choses. C'est énorme. Bien que cela n'ait pas de valeur réellement, mais au regard, c'est quelque chose d'énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui, ou alors, qu'il n'est pas un sur terre, fi ardillahi azza wa jal, fi ayyi makan, dans n'importe quel endroit, qui prononce ces cinq paroles sans que ses péchés lui soient pardonnés, c'est-à-dire ses péchés mineurs. Car les péchés se divisent en deux, les péchés majeurs et les péchés mineurs. La différence entre les deux catégories de péchés est la suivante. Les péchés majeurs sont rattachés à une menace. C'est-à-dire que lorsque l'on lit le Coran ou les hadiths, on voit que quand on parle de ces péchés-là, il y a une menace qui est rattachée. Celui qui fait telle chose, Allah ne le regardera pas. Allah ne lui adressera pas la parole. Allah ne l'aime pas. Il ne fait pas partie de nous. Sur lui, la malédiction d'Allah... Allah le lancera dans le feu, etc. Lorsque tu entends une menace, sache que le péché cité dans le texte est un péché majeur. Le péché mineur, c'est quelque chose qu'Allah a interdit, mais qui dans les textes ne va pas être accompagné d'une telle menace. Un autre point de vue, dans la différence, c'est la gravité. Tous les péchés sont graves, mais les péchés majeurs le sont bien plus encore que les péchés mineurs. Et un troisième point, les péchés majeurs, pour se les faire pardonner, ils nécessitent un repentir. Tandis que les péchés mineurs ont des bonnes actions qui, quand elles sont faites, sont expiatrices des péchés mineurs. Comme c'est le cas ici, de celui qui dira « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala » par ses paroles, lui effacera ses péchés mineurs. Quand bien même ces derniers seraient supérieurs en nombre à l'écume de la mer. Dans des hadiths, dans autres hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة, celui qui dit سبحان الله وبحمده 100 fois, حطت عنه خطايا, il se verra déchargé de ses fautes, de ses péchés. ولو كانت مثل زبد البحر, quand bien même ses fautes seraient égales à l'écume de la mer. Ici, on va plus loin. On dit ولو كانت أكثر من زبد البحر, quand bien même ses péchés seraient supérieurs en nombre à l'écume de la mer. Subhanallah. فمن قال هذه الكلمات الخمس, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, كفر الله عنه ذنوبه. والمراد بالذنوب هنا الصغائر, لأن ذنوب, هذه الذنوب قسمان, هذه كبائر الذنوب, هذه صغائر الذنوب. انتبه, عندما نقول صغائر الذنوب ليس معناها أنها صغيرة عند الله, لا, ولكن المعنى أنها أصغر من هذه, هذه أكبر من هذه, وكلها ذنوب عظيمة. لكن عندنا كبائر الذنوب وصغائر الذنوب, ما هو الفرق بينهما؟ ما معنى كبير وصغير, يعني كبيرة وصغيرة في الذنوب؟ المعنى أن كبائر الذنوب هي التي يترتب عليها وعيد من الله سبحانه وتعالى. مثلا إذا سمعت في حديث أو في آية من فعل كذا من قال كذا مثلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا وعيد من الله عز وجل، فهذا ذنب من كبائر الذنوب. إذا سمعت إن الله مثلا لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، في حديث مسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا سمعت لعن الله فما يقوله هو من كبائر الذنوب. وهكذا صغائر الذنوب محرمة لكن ليس فيها، لا يترتب عليها وعيد، هذا من ناحية. من جانب آخر أن الفرق بينهما أن كبائر الذنوب من أراد أن تكفر عنه فإنه لا بد أن يتوب، لا بد من توبة، فهذا الذي غير منار الأرض، الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام لعنه الله، الذي يغير الحدود في الأراضي فيغش ويأخذ من أرض الجار، فهذا ملعون. إذا أراد أن يكفر الله عنه هذا الذنب لا بد أن يتوب إلى الله، ويقتضي ذلك أن يرد الحق إلى صاحبه. لكن صغائر الذنوب قد يغفرها الله عز وجل، ويمكن أن يكفرها بلا توبة بأعمال صالحة تكفر الذنوب، منها هذه الكلمات الخمس. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت مدرك لمعانيها، متأمل لها، محقق لها في قلبك وحياتك، فاعلم أن الله عز وجل سيكفر عنك ذنوبك الصغائر ولو كانت أكثر من زبد البحر. مع أن في أحاديث عدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانت مثل زبد البحر، إلا أن هنا قال: ولو كانت أكثر من زبد البحر، يعني حتى لو كانت كثيرة ربما لا تحصى ولا تعرف عددها، لكن الله يكفرها عنك بفضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني رواه الإمام النسائي وغيره عن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. يشق عليه حفظ القرآن لكن هو حريص على الخير، لا يقول أنا غير قادر على حفظ القرآن إذن لا شيء عليه، لا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني البديل يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني ويسهل علي. فيقول عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، يعني هذا ثناء على الله وذكر لله، فما لي؟ أريد أنا أن أسأل الله شيئا لي لمصلحتي بعد أن أثنيت على الله بهذه الكلمات، فماذا تعلمني يا رسول الله؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، ملأ يده من الخير. مع أنه شيء لا يرى، وكثير من الناس متعلقون بالمادة التي يحس بها وترى وتمس تلمس، إلا أن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملأ يده من الخير. لما قال هذا، لو نظر أحدهم إلى يده أسيرى شيئا؟ لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ملأ يده، لأن القلب تملأه في الحقيقة بالإيمان ومتعلقاته، وكذلك هنا قال ملأ يده من الخير. Dans un autre récit, un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je ne suis pas en mesure d'apprendre le Coran. Enseigne-moi donc quelque chose qui va lui substituer. Enseigne-moi donc quelque chose qui me permettra de voir l'équivalent en termes de récompense. Regardez ce compagnon. Il ne s'est pas dit, je n'arrive pas à apprendre, alors il n'y a rien d'autre pour moi. Il est parti voir le prophète, alayhi salat wa salam, et lui a dit, donne-moi quelque chose que je puisse faire. Et celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas faire désespérer les gens. من يدعو إلى الله لا يقنط الناس من رحمة الله يأتيه من هو غير قادر على أن يتعلم أو أن يحفظ يعطيه البديل ولا يتركه هكذا. Celui qui appelle à Allah, quelqu'un vient le voir, lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire, il lui donne quelque chose à la place. والدين يسر والفضل بيد الله عز وجل. La religion est simplicité et la grâce est chez Allah عز وجل. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cet homme dit alors, ô messager d'Allah, ceci est pour Allah, qu'y a-t-il pour moi? C'est-à-dire, ce sont des paroles qui servent à louer Allah, à le vanter, à reconnaître sa grandeur, son unicité, qu'il est pur, qu'il a les meilleurs attributs. Qu'y a-t-il pour moi? Que puis-je demander à Allah? Enseigne-moi quelque chose que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, dis, Allahumma arhamni, ô Allah, fais-moi miséricorde, warzuqni, accorde-moi subsistance, wa'afini, accorde-moi salut, qu'il te préserve dans la santé, dans les biens, dans ta vie, dans ta religiosité, dans toutes les bonnes choses. Wahdini, et guide-moi. Lorsqu'il s'est levé, il a fait ce geste avec sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à celui-là, il vient très certainement de remplir sa main de bien. الخير عند الله سبحانه وتعالى نعم المقصود المهم أنه ما شاء الله في يده خير كثير خير كبير وإن شاء الله أنت في يديك الخير الكثير بارك الله فيك. Donc cet homme-là, le prophète عليه الصلاة والسلام dit, il a rempli sa main de bien. Je vous pose une question. Si l'un d'entre les compagnons qui étaient présents regardait cette main-là, aurait-il vu quelque chose? Répondez. Il aurait vu quoi? Une main et rien d'autre. Pourtant, le prophète, alayhi salat wa salam, dit, il a rempli sa main de bien. Ce qui te montre que la réalité du bien, c'est la ibada, c'est l'adoration et tout ce qui en découle comme œuvre pieuse. C'est ça le bien. Ainsi, le véritable riche n'est pas celui qui a la main vide physiquement, ou alors qui n'a pas de moyens en apparence. Le véritable, pardon, pauvre n'est pas celui qui a la main vide physiquement. Le véritable pauvre est celui qui a le cœur vide et la main vide des bonnes actions. Et le véritable riche n'est pas celui qui a les poches pleines et les mains pleines, à tel point qu'il ne sait plus quoi faire avec. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à les lever pour dire Allahu Akbar dans sa salat. Il est occupé par autre chose. Celui-là, il est pauvre. Il n'est pas riche. Le troisième hadith que nous allons voir ici, d'après Abu Saïd al-Khudri, bon, je vais passer plutôt à un autre texte, Inch'Allah Ta'ala. Ou plutôt, je me contente ici, laissez-moi réfléchir un instant. Taïb. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الباقيات الصالحات التي قال الله عنها في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ذكرني ثوابا وخير أملا أحسنت بارك الله فيك يقول عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عبد الله بن عمر a été interrogé qu'Allah l'a gré lui et son père par quelqu'un qui lui a dit que sont ses actions ou ses paroles appelées al-baqiyat ou salihat les œuvres pieuses restantes qui perdurent dont les bénéfices ne cessent d'être profitables, il répondit, ce sont les paroles, La ilaha illallah, Wallahu akbar, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahnu ma dakhalna fil ma'na al-an. Nous ne sommes pas encore entrés dans le sens de cette parole. Nous sommes en train de montrer sa valeur pour nous donner envie de comprendre le sens. Insha'Allahu ta'ala. Plusieurs parmi les pieux prédécesseurs ont évoqué cette parole comme faisant partie des baqiyat, al-baqiyat salihat, au sujet desquels Allah nous parle dans sourate al-Kahf quand il nous dit dans le sens du rapproché du verset les biens et les enfants sont la parure de cette vie d'ici-bas. Quant aux œuvres pieuses qui perdurent, elles sont meilleures auprès de ton Seigneur, et il y a plus à en espérer. Il y a plus à en espérer comme bénéfice. Beaucoup de paroles, mes chers frères, ont été dites concernant ces paroles. Ce que l'on a dit ici concerne les cinq paroles. Voyons maintenant un texte qui précise la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, « Qala kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar ». Il dit « Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage ».« Fi safarin fa kunna idha alawna kabbarna wa idha habatna sabbahna ». Le compagnon dit « أو وفي رواية فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعنو ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. Ce compagnon dit, chaque fois que nous passions près d'une montée, lorsque l'on se mettait à monter en voyage, nous disions Allahu Akbar. Et dans une variante de ce récit, chaque fois que l'on montait, on gravissait un sommet, on disait Allahu Akbar. Puis quand on descendait vers une vallée, on élevait notre voix avec le takbir. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَيْ اُرْفُقُوا بِأَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبَ وَلَكِنْ تدعون سميعا بصيرا لا حاجة إلى رفع الصوت بهذا الشكل لأن الله عز وجل سميع بصير يسمع كل صوت لا يخفى عليه صوت ولذلك عد العلماء من الاعتداء في الدعاء أن يرفع الداعي صوته رفعا يخل بالخشوع، كما هو حال كثير من الناس في صلاة التراويح، يصرخ ويصرخ والناس مساكين آمين آمين، كأنه عمل صالح وهو مخالف للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بكم شوية شوية، لا حاجة لرفع الصوت هكذا. Vous n'avez pas besoin d'élever votre voix à ce point-là. Soyez doux envers vous-même. Vous n'invoquez pas un sourd ou un absent. لا تدعون الصم لا يسمع وغائب غير موجود هو يراكم ويسمعكم ولكن تدعون سميعا بصيرا. Mais vous invoquez un audient, un clairvoyant. Il vous entend parfaitement, il vous voit parfaitement. Vous n'avez donc pas besoin d'élever votre voix à tel point que l'on a l'impression d'appeler quelqu'un qui n'est pas là ou qui n'entend pas si on n'élève pas la voix de cette façon. Pour cette raison, les savants ont énoncé que le fait d'élever cette voix lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est malheureusement le cas chez beaucoup de personnes, notamment celles qui dirigent les prières de Taraweeh et qui se mettent à invoquer Allah presque, qui vont jusqu'à hurler, pensant qu'ils ont fait du bien. Et tout le monde derrière pense que c'est bien, alors que c'est une contradiction avec la sunna. Car c'est une contradiction avec le sens des attributs d'Allah, parmi lesquels le fait qu'il entende. Il n'a pas besoin que tu hurles. Il sait ce que chacun d'entre nous se dit à ce moment-là dans la tête. On n'a pas besoin d'hurler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète, pardon, alayhi salatu wa salam, leur dit ensuite, ثم أتى علي, le compagnon dit, ثم أتى علي, وأنا أقول في نفسي, لا حول ولا قوة إلا بالله. Le compagnon dit, puis il m'est venu, alors que je disais en moi-même, لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. سبحان الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit au compagnon, ô عبد الله بن قيس, dis la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, tu fais bien de dire cette parole et continue dans cette voie-là. Car elle est un trésor parmi les trésors du paradis. Ou alors, il lui a dit, ne vais-je pas t'indiquer une parole qui est un des trésors du paradis? Il lui dit ensuite, la hawla wa la quwwata illa billah. Deuxième hadith. Concernant particulièrement la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » روى الإمام أحمد وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم على نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نصيحة عظيمة ينصح بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ينصح أفضل الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم حينما التقيا ليلة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. في تلك الليلة التقى بإبراهيم عليه السلام فنصحه أن ينصح أمته أن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا مرة لا مرتين، لا ثلاث مرات كثيرا دائما لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها غراس الجنة. غراس الجنة، أنت ترى من يزرع في الأرض يزرع الحبوب ويصبر لعل الله سبحانه وتعالى ينبت الشجرة المثمرة، فهو كذلك من قال لا حول ولا قوة إلا بالله يزرع في الجنة ويجني ثمار ذلك يوم يكون بأمس الحاجة إلى كلمة واحدة ربما تغير مصيره بإذن الله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la nuit du voyage nocturne, a rencontré Ibrahim alayhi salam qui lui a dit « Ô Muhammad, ordonne à ta communauté de prononcer en abondance, de planter en abondance dans le paradis. » Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit « Et qu'est-ce que c'est que ghirasul jannah, les graines qui sont semées au paradis ?» Il lui dit, c'est la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Lorsque tu vois celui qui jardine ou alors qui le cultivateur, il plante, il sème les graines, il retourne la terre, il travaille la terre et il attend. Puis tu vois un an, deux ans après des pommes, des poires, des figues, des raisins. Bifadlillahi azza wa jal. Celui qui dit la hawla wa la quwwata illa billah, même s'il ne le voit pas, comme il ne voit pas la main qui est pleine de celui qui dit cette parole, en réalité, il est en train de planter ce qu'il va cueillir chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, cette parole a un sens. هذه الكلمة لها مدلول لها معنى لها حقيقة لابد أن يدركها المسلم. Elle a un sens véritable, profond, que le musulman doit absolument comprendre et cerner. كثير من الناس يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة. مات فلان لا حول ولا قوة إلا بالله. كسر فلانا سيارتي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غلط. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقال عند المصيبة. عند المصيبة يقال ما ذكره الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تسمى الاسترجاع. فعند المصيبة تقول هذه الكلمة، لكن الحوقلة لا، لأن المقصود بها ليس هذا. Beaucoup de gens disent لا حول ولا قوة إلا بالله lorsqu'il y a un malheur. Il y a un mort, il dit لا حول ولا قوة إلا بالله. Quelqu'un lui casse un bien matériel qu'il possède, il dit لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est une erreur. Cette parole ne se dit pas dans ce moment-là. Elle ne sert pas à ça. Par contre, dans ce moment-là, ce qu'il faut dire, c'est Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et vers Allah nous retournerons. Quant à la parole La hawla wa la quwwata illa billah, al maqsoud biha huwa al isti'anatu billah, talab al aoun min Allah azza wa jal wa tafwid al amri ila Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو المقصود من هذه الكلمة. Ce qui est voulu de la parole la hawla wa la quwwata illa billah, c'est de demander l'aide d'Allah et d'abandonner ton affaire à Allah, de placer ta confiance en Allah, tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala wa imanuka bi qadarillah, et ta foi au destin d'Allah azza wa jal. C'est ça le sens de la parole la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. Ma ma'na al-hawl? أحسنت أكرمك الله. الحول هو التحول، يعني تغير الحال. إذا تغيرت وانتقلت من حال إلى أخرى فهذا يسمى تحولا ويسمى حولا. الحول quand on dit la hawla, ce qui est voulu par al-hawl, qui a été nié dans cette phrase, c'est le changement de situation, le passage d'un état vers un autre. مثال ذلك, un exemple. حينما تكون نائما بالليل فيحين وقت الصلاة صلاة الفجر تقوم تغيرت من حال النوم إلى حال الاستيقاظ هذا حول وهذا الحول والتغيير لحالك لا يمكن أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى فلا نتغير من حال المرض إلى حال الصحة إلا بالله ولا نتغير ولا ننتقل من حال الفقر إلى حال الغنى إلا بالله وإعانته عز وجل ولا ننتقل من حال الابتلاء إلى حال العافية إلا بالله فالتغيير من الله وحده لا شريك له. Lorsque tu dis la hawl, tu nies le fait qu'il puisse avoir un hawl. Le hawl, c'est le changement de situation, le passage d'un état vers un autre, comme lorsque tu dors la nuit. Puis tu te lèves pour l'accomplissement de la prière de l'aube. À ce moment-là, il y a un changement du sommeil vers le réveil. On appelle ça al-hawl. Ce hawl, ou alors ce changement d'état, n'a pu avoir lieu que parce qu'Allah te l'a permis et t'a aidé. C'est ça qui est voulu à travers cette parole. C'est de reconnaître que tu ne peux passer d'un état à un autre que si Allah t'aide. Que tu ne peux donc accomplir tes différentes tâches que si Allah t'aide et te le permet, subhanahu wa ta'ala. C'est donc une parole servant à t'en remettre à Allah et à abandonner ton affaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le fait de passer de la pauvreté à la richesse, de l'épreuve au salut, de la maladie à la guérison, du besoin à la suffisance, ce sont des changements d'état qui nécessitent absolument l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole sert à exprimer que tu le reconnais et donc à demander à Allah que puisque tu le reconnais, qu'il te donne son aide. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît son besoin et sa faiblesse, pardon, quand le serviteur d'Allah Azza wa Jal reconnaît son besoin et sa faiblesse envers Allah, que se passe-t-il? Allah l'aide. Subhanallah. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lahu kitabun azim Tariq al-Hijratayn wa Bab al-Sa'adatayn. L'Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a un livre extrêmement bénéfique. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu l'introduction. Dedans, il dit يبين فيها أن الله سبحانه وتعالى غني بذاته وأن العبد فقير بذاته. الله غني لأنه الله، العبد فقير لأنه العبد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ابن القيم رحمه الله نجي Allah subhanahu wa ta'ala est riche par son essence. Le serviteur est pauvre par son essence. Allah subhanahu wa ta'ala est riche parce qu'il n'est autre qu'Allah. Le serviteur est pauvre et besogneux parce qu'il n'est autre que le serviteur. C'est ainsi qu'Allah est et que le serviteur est. Dans le sens du verset, il nous dit, ô vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah. ابن القيم رحمه الله يسترسل ويقول فإذا عرف هذا العبد فقره الشديد إلى الله سبحانه وتعالى وعرف أنه مفلس لا شيء له لا حول له ولا قوة أثمر ذلك حقيقة الغنى الغنى بالله عز وجل. Ibn al-Qayyim rahimallah nous dit, si le serviteur réalise qu'il est faible parce qu'il est un serviteur faible et qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien atteindre sans Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne concrétiser aucun but sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela produit comme fruit la richesse par excellence. Il reconnaît qu'il est faible serviteur d'Allah, qu'il est pauvre, alors Allah subhanahu wa ta'ala le rend riche par sa foi, riche par sa proximité envers Allah. Et c'est lui le véritable riche. Au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa al-ghina an kathrati al-ard » La richesse ne se manifeste pas à travers l'abondance des biens de la personne. « Walakin al-ghina ghina nafs » Mais la richesse est la richesse de l'âme. والنفس تكون غنية حينما تعترف أنها فقيرة إلى الله فيغنيها الله سبحانه وتعالى. والله كلام عظيم. Lorsque le serviteur reconnaît sa faiblesse, Allah le rend riche. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, la richesse, ce n'est pas d'avoir l'abondance de biens, mais la richesse, c'est la richesse de l'âme. L'âme de celui qui sait qu'il est pauvre et qu'il a besoin d'Allah, qui s'est vu enrichi par Allah, enrichi de foi, et le cœur rempli de liens avec Allah, subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata ahtaju ilayha li hadha at-taghyir. At-taghyir min hal an-nawm ila al-istiqaz yatatallabu quwwatan. At-taghyir min al-marad ila as-sihha, al-faqr ila al-ghina, al-ibtila ila al-afiyah. الشدة إلى اليسر هذا يحتاج إلى قوة لكنك ضعيف أيها البشر فتعترف أن القوة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى فلا تنتقل من حال إلى أخرى ولا قوة لك تقوم بها بهذا الانتقال بين هذه الأحوال إلا إذا أعانك الله. Et tu n'as de force pour pouvoir changer et passer d'un état vers un autre que si Allah te l'accorde. Car au final, tu n'es rien. Tu n'es rien si ce n'est un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lama arafa dhalika sahabatu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, kanu yaqulun, wallah, lawla Allah ma sallayna, wala sumna, wala tasaddaqna. ونحن نقول لولا الله والله ما جلسنا هنا لولا الله والله ما سمعنا هذا الكلام لولا الله والله ما دخل هذا الكلام قلوبنا ولولا رحمة ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بيده والله يقول له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا ترى قيمة في أعمالك أو في نفسك ولا تعتمد على نفسك فإذا وكلك الله إلى نفسك فأنت لا شيء أنت أخسر إنسان في الدنيا بدون الله عز وجل. Tu n'as de force qu'avec Allah عز وجل. Tu ne peux passer d'un état à un autre qu'avec Allah Subhanahu wa ta'ala. C'est ce que tu dois reconnaître. Les compagnons l'avaient compris. Ils disaient, Wallah, si Allah n'était pas avec nous, on n'aurait jamais pu prier, jamais jeûner et jamais pu faire des aumônes. Et c'est ainsi que le croyant est. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait été purifié. Et nous, nous disons, sans la grâce et la miséricorde d'Allah, aucun d'entre nous n'aurait pu être assis ici. Je n'aurais pas pu vous dire ce que je vous dis. Si Allah ne l'avait pas voulu, si Allah ne l'avait pas facilité, si Allah ne nous avait pas honorés et choisis, alors qu'il connaît nos péchés, subhanahu wa ta'ala. Il connaît nos manquements, il connaît nos fautes. Et il nous honore, il ne cesse de nous honorer. Quand est-ce que nous allons être reconnaissants envers lui? Quand est-ce que nous allons l'adorer comme il se doit? Quand est-ce que nous allons s'en remettre à lui? Quand est-ce que nous allons reconnaître qu'il n'y a de changement d'un état à un autre et de force pour pouvoir le faire que par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça que le croyant doit œuvrer. C'est ça la vie du croyant. Ce n'est pas de s'attacher à la vie de dunya et de ne pas connaître les paroles, de mémoriser les noms et les prénoms de tous les gens qui n'ont aucune valeur, de connaître les coutumes et les actions de telle et telle personne qui ne te serviront à rien. Ce qui t'est utile, c'est d'être un serviteur qui dit « La hawla wa la quwwata illa billah ». Regarde ce que tu dis quand tu te réveilles. « La ilaha illallah min adhkar al-istiqad min an-nawm. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Taquluhu 'inda qawmatika min an-nawm. Limadha? Lianna al-muslim ya'tarif qabla an yanam wa ba'da an yanam anna taqallubatihi kullaha min 'indillah wa min fadlillah subhanahu wa ta'ala laysa bi shay'. La تعلق قلبك بالمخلوق فإنه لن يقدر مخلوق على أن ينجيك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى بل تعلق بالله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. Ne t'attache pas à une créature. Remets-toi-en à Allah. Abandonne ton affaire à Allah. داعية التوحيد في قوم فرعون كما جاء في سورة غافر يدعو قومه إلى الله عز وجل يبصرهم بالدين يعلمهم التوحيد ويقول لهم بعد ذلك وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Le prêcheur du tawhid du peuple de Pharaon, il appelle son peuple qui ne veut pas lui répondre à l'unicité d'Allah, à l'adoration d'Allah, à l'obéissance à Allah azza wa jal, et à la fin il leur dit: vous allez très certainement vous souvenir de ce que je vous dis là. Et j'abandonne toute mon affaire à Allah. Et Allah est clairvoyant. Il voit parfaitement ce que les serviteurs font. Ça, c'est la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». C'est pour ça qu'elle est un trésor du paradis. Et ensuite, cette parole, elle doit se traduire dans ta vie. Elle doit se traduire dans notre vie. Nous autres, les faibles serviteurs que nous sommes, nous devons lever nos mains à Allah, lui présenter nos demandes, le solliciter et lui dire: oh Allah, je suis faible et tu es fort. Je suis pauvre et tu es riche. Je ne peux rien et tu es omnipotent. Je ne suis qu'un ignorant et tu n'es qu'un parfait connaisseur. Je ne peux rien sans toi. Je t'implore mon aide. Tu as besoin d'aide dans des choses que tu entreprends dans ta vie. La hawla wa la quwwata illa billah va t'aider bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cette parole-là, elle va t'aider. Hadhihi al-kalima fiha i'ana, aoun min Allah subhanahu wa ta'ala lil'abd alladhi yaquluha wa yudriku madlulaha wa yafhamu ma'naha wa yuhaqqiqu maqsoodaha. Celui qui prononce cette parole, qui en comprend ce qui en découle, il sait qu'il est en train de demander de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu essayes de faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah » parce que tu reconnais que ça ne marche pas parce qu'Allah ne t'aide pas. « Oh Allah, aide-moi, je suis faible. Je ne peux atteindre cet objectif. Je ne peux changer d'état que si tu m'aides, oh Allah. » Je t'implore donc d'avoir pitié de la faible créature que je suis et de me donner ton aide. إذا رأى الله عز وجل في قلبك هذه الحالة العظيمة من تحقيق العبودية والقرب منه والاعتراف بفقرك وغناه وضعفك وقوته فإن الله عز وجل سيعينك بإذن الله si tu reconnais ta situation de faiblesse, de besoin, et sa richesse, et le fait qu'il n'ait nullement besoin de quiconque, et tu le supplies et l'implores, alors sache qu'il t'aidera inévitablement. Parce que c'est un Seigneur généreux. Il a les noms et les attributs les plus parfaits. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة الطيبة ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى معترفين بأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه أن يعيننا ويوفقنا إلى كل خير ويجنبنا كل شر ويغفر لنا ذنوبنا ويرفع لنا درجاتنا ويستر عيوبنا اللهم وفقنا لكل خير اللهم اشرح صدورنا بتوحيدك يا رب العالمين نسألك أن تكرمنا بكلمة التوحيد وأن نموت عليها بعد أن عشنا بها ودعونا إليها يا ذا الجلال والإكرام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك Un point important, la parole la hawla wa la quwwata illa billah, quand tu prends les livres d'invocation, tu vois qu'elle est traduite par il n'y a de puissance ni de force, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Vous avez compris que cette traduction n'est pas précise, elle n'est pas fidèle au sens voulu de cette parole. Donc, je pense, wallahu a'lam, et peut-être que quelqu'un trouvera mieux que moi, que l'on pourrait dire, pour traduire la parole, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a possibilité de passer d'une étape, d'un état à un autre, ni de force pour pouvoir le faire, sans l'aide d'Allah. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.